Bonsoir à toutes et à tous. La fin d'un totem, d'un symbole, de l'intégration à la française pour la gauche. Gérald Darmanin annonce la fin du droit du sol à Mayotte. Mayotte confrontée à une immigration incontrôlée de la part notamment des Comores voisines. Une décision applaudie par la droite et l'extrême droite qui réclame même la suppression du droit du sol partout en France. Car ce qui se passe à Mayotte, dit-elle, préfigure ce qui va arriver en métropole. Alors question, qu'en pense l'opinion publique est-elle attachée à ce principe du droit du sol qui remonte au 19e siècle? Cette séquence peut-elle avoir une influence sur les élections européennes et plus précisément sur le score du Rassemblement national? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « L'enfer de Mayotte, l'extrême droite en embuscade ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur. Votre livre « Peuple de colère », c'est chez Fayard. Rachel Binas, vous êtes journaliste au service société de Marianne. Vous étiez à Mayotte en octobre dernier, vous nous raconterez. Nathalie Moret, journaliste politique pour le groupe de presse régional EBRA. Citons le Progrès de Lyon ou les DNA, les dernières nouvelles d'Alsace. Et enfin Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP. Dans votre dernière, dans une récente enquête, Marine Le Pen arriverait en tête du premier tour à la présidentielle de 2027 avec 36% des intentions de vote. Merci de participer à cette émission en direct. Alors Rachel Binas, je cite le témoignage dans le journal Le Monde d'une professeure des écoles qui vit à Mayotte, qui a 32 ans et qui dit: nous ne pouvons plus aller à la plage, sortir le soir. Quand j'emmène mon fils de 3 ans au parc, il me demande s'il y a des délinquants. Vous étiez en octobre dernier à Mayotte. Qu'avez-vous vu? Quelle est l'ambiance, l'atmosphère?
L'ambiance est très tendue. Alors certes, des améliorations ont pu avoir lieu avec l'opération Wambushu, fameuse opération Wambushu 1, qui visait justement à démanteler des filières d'immigration illégale, à mettre fin aux bidonvilles également. Donc pendant cette période-là, on va dire que les Mahorais ont retrouvé un petit peu leur île. Ils allaient à la plage, ils sortaient, ils se sentaient davantage en sécurité. Mais de manière générale, c'est une situation sécuritaire qui est de plus en plus tendue, qui peut s'exprimer par exemple par le biais de bandes rivales qui vont s'affronter, de barrages par justement ces bandes, ces jeunes souvent comoriens en situation irrégulière, et puis qui peuvent attaquer des villages, mettre feu à des voitures, à des boutiques, à des maisons, c'est tout ça.
Ils sont sans parents en fait.
Ils sont sans parents en effet, sans réelle autorité en fait, sans réelle autorité parentale. Parfois leurs parents ont été expulsés, la mère a souhaité laisser l'enfant, expliquant aux policiers que ce n'était pas le sien. Ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent pour que l'enfant reste espérant un avenir meilleur sur le sol mahorais. Et puis, c'est aussi, pour revenir au témoignage et au monde enseignant, c'est aussi à Mayotte, en maternelle, en primaire, un enfant sur deux qui est en scolarité alternée, c'est-à-dire qui a cours soit le matin, soit l'après-midi, parce qu'on n'arrive pas à scolariser tout le monde. Il faut savoir que la première fois que j'étais à Mayotte, on était à 25 naissances par jour. Aujourd'hui, on est à plus de 30 naissances par jour. On ne connaît pas le nombre total d'habitants de l'île. Certains vous diront 300 000, 400 000. On ne le connaît pas. 60% des adultes à Mayotte sont étrangers. Donc, on est dans une situation extrêmement compliquée où, en effet, les enjeux migratoires croisent les enjeux sécuritaires et qui est lié essentiellement, en fait, à la place géographique qui occupe Mayotte aujourd'hui, et bien sûr à la départementalisation qui a créé un écart de richesse important entre les Comores, parce que l'essentiel de l'immigration aujourd'hui provient des Comores, et puis Mayotte, département français, 101e département français, qui lui est perçu comme un territoire attractif, riche.
Sept fois plus riche que les Comores.
Sept fois plus riche que les Comores, et puis avec par exemple un système social, un système de santé, beaucoup d'enjoinés, puisque l'archipel des Comores se compose de plusieurs îles, la plus pauvre étant Anjouan, à 70 km de Mayotte. Eh bien, ce sont des gens très pauvres qui viennent, d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir, peut-être pas tant pour les papiers en réalité que pour le système de santé et pour les soins et la scolarité dont ils pourraient bénéficier.
Alors, Emmanuel Moret, c'est vrai que, Nathalie Moret, il y a eu un reportage la semaine dernière très frappant à Mayotte où on voyait les habitants se faire piller par des bandes organisées. Gérald Darmanin y est allé, parce que Mayotte, c'est la France, pour restaurer l'ordre. et peut-être affirmer d'ailleurs que ben voilà, le gouvernement ne peut pas tolérer qu'une partie du territoire français soit ainsi soumise à des bandes de pillards.
Oui, vous avez raison, il y a eu une sorte de mise en scène du déplacement du ministre de l'Intérieur qui s'est déplacé à Mayotte hier avec sa nouvelle ministre des Outre-mer. Il avait fait savoir à la presse qu'il n'y allait pas les mains vides et qu'il aurait une déclaration forte à faire. Et effectivement, il n'avait pas posé les pieds sur le tarmac qu'il annonçait que le droit du sol à Mayotte c'était fini. En tous les cas, qu'il allait déposer que le président de la République était d'accord et qu'il y aurait une révision constitutionnelle pour permettre effectivement au droit du sol qui est partout sur le territoire, mais de faire une exception à Mayotte. Il a voulu le faire pour réaffirmer son autorité. D'arriver comme ça à deux, de passer juste quelques heures sur l'île, c'est quelque chose de très fort. Hein. C'est loin, Mayotte. Hein. Donc, y aller et poser ces conditions-là juste en sortant de l'avion, c'est une démarche d'autorité forte. C'est fait pour marquer les esprits, pour marquer ceux des Mahorais qui sont très en colère contre le gouvernement parce qu'ils ont l'impression d'être délaissés. Puis pour marquer aussi certainement les autorités des Comores en disant, mais attendez, faites aussi quelque chose. Donc, voilà, c'était un déplacement très médiatique et qui a eu des répercussions très très politiques parce que il y a une chose, c'est d'annoncer que le droit du sol va être supprimé. La seconde chose, c'est de faire en sorte que ça soit un, efficace, et deux, que ça se passe, qu'il est loin d'être gagné.
Christophe Barbier, question téléspectateur. Florence dans le Finistère, quelles mesures ont été prises ces dernières années pour mettre fin à l'insécurité dans les rues de Mayotte? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression d'une impuissance face à ces bateaux qui arrivent avec des migrants...
C'est pas l'impression, c'est la réalité d'une impuissance. Hein. Rachel décrivait les scènes que l'on a pu voir. Des choses ont été faites, à la fois l'envoi de forces supplémentaires, notamment le gendarme, donc des éléments militaires de rétablissement de l'ordre très armés, des opérations spectaculaires, Wanbushu, qui a donné quand même lieu à beaucoup de débats ici en métropole, de débats politiques. Est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce que c'est une méthode d'action policière acceptable? Et puis il y a eu déjà des actions juridiques, puisque depuis plusieurs années, le droit du sol est conditionné à Mayotte. Un enfant qui naît n'est pas immédiatement français, il est français à condition que l'un de ses parents soit en situation régulière depuis un certain temps, quelques semaines,
trois mois.
Au moment de la naissance. Ouais. C'est-à-dire, en gros, envoyer la mère sur le point d'accoucher, mettre son bébé au monde à Mayotte, ça suffit plus. Il y a eu aussi des actions qui sont dénoncées par une partie de la classe politique, notamment des ONG qui ont été chargées et financées pour s'occuper de ces populations qui arrivaient. Et certains disent, mais en fait, ces ONG sont rémunérées selon le nombre de migrants dont elles s'occupent. Donc elles ont intérêt à s'occuper de beaucoup de migrants. Donc elles ne sont pas un frein, mais au contraire, elles vont attirer. Puisque ceux qui viennent des Comores vont se dire, on sera pris en charge par ces associations. Et ces associations se disent, si on a beaucoup de monde, on aura beaucoup de financement, on pourra mieux les aider, mieux travailler. Donc il y a parfois des effets pervers dans ce qui a été tenté. C'est extrêmement complexe. N'oublions pas que François Baroin, ministre à l'époque de l'Outre-mer, on était à la fin de Jacques Chirac, avait déjà évoqué la suppression du droit du sol. Donc vous voyez, c'était il y a plus de 15 ans.
Question SMS Rachel Binas. Le droit du sol est-il le seul facteur d'attractivité de Mayotte? C'est Eric à Paris qui pose la question.
C'est une excellente question. C'est une excellente question auquel, en réalité, pas grand monde a la réponse. Parce que, en effet, on le sait, il y a une attractivité due tout simplement à la France, à ce qu'elle représente, aux prestations qu'on peut avoir.
La santé, mais sauf que l'école, vous dites, ils n'y vont pas, les enfants sont...
L'école, la santé, mais alors, bien sûr que le document français est vu comme l'espèce de Saint Graal. Mais il y a aussi, et j'insiste là-dessus, toute une partie de l'immigration, notamment comorienne, venue d'Anjouan, qui ne vient pas forcément, qui est prêt à mourir en mer, et qui ne vient pas forcément pour les papiers. La plupart des Comoriens, en fait, ne demandent pas l'asile, par exemple. L'asile est demandé surtout par les Africains des Grands Lacs.
Parce qu'en plus, il y a une immigration maintenant qui vient de Somalie. Alors là, c'est une route de
alors, j'irais plutôt Africains des Grands Lacs, Rwanda, Congo. Ils arrivent, il faut payer entre 3 000 et 5 000 euros. On vous fait passer par la Tanzanie, puis ensuite les Comores. Aux Comores, vous prenez le fameux Kwasa Kwasa, la petite embarcation d'Anjouan. Vous faites les 70 km, vous arrivez à Mayotte.
Et après ?
Vous déposez la demande d'asile.
et ensuite en espérant aller en métropole.
Éventuellement dans l'Hexagone, oui. Voilà. Mais par contre, si vous vous penchez sur... Ce sont des gens qui peuvent être éligibles, hein. Ce n'est pas forcément un abus de la demande d'asile.
Mais ça ajoute
quand vous venez
de la migration à la migration comorienne.
Exactement, et encore une fois, notamment les Comoriens venus d'Anjouan, de cette île la plus pauvre, où il y a... Enfin, moi, quand j'ai été, pour tout vous dire, j'étais aux Comores également, en octobre dernier. Au moment où j'étais, les associations me disaient que, par exemple, l'école de formation des médecins a fermé. On ne formait plus de médecins aux Comores. Alors, je ne sais pas si depuis elle a réouverte, il faut dire que la Chine aussi contribue à financer certaines choses dans une logique de soft power, mais il faut comprendre que ceux qui quittent en juin pour venir à Mayotte, c'est pas forcément, c'est pas automatiquement pour des papiers, c'est déjà pour avoir accès à des conditions de vie qu'ils seront meilleurs à Mayotte.
D'accord. Alors, Frédéric Dabi, comment les Français voient-ils ce qu'il se passe à Mayotte? Est-ce que Mayotte, c'est très loin, ou est-ce que, comme disait d'ailleurs ce matin... Éric Zemmour, ça a une résonance chez nous, parce que, alors c'est lui qui l'affirme, il disait « ce qui se passe à Mayotte finira par arriver en métropole ».
Oui, ce sont les deux écueils, effectivement. Déjà, il faut mettre en exergue un point qui est une vraie rupture par rapport à il y a quelques années, une dizaine d'années, c'est que maintenant, une majorité de Français opère un lien entre insécurité et immigration. S'agissant de ce qui se passe en France métropolitaine. C'est une véritable rupture, puisqu'il y a quelques années, c'était vraiment l'apanage, la marque de fabrique du jean-marisme, de Jean-Marie Le Pen et de l'offre programmatique et du discours du Front National, du Rassemblement National. Autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est que sur la question migratoire, on va peut-être y venir quand on va peut-être parler de ce qui s'est passé en France ces derniers mois, le clivage gauche-droite s'est absolument effondré. C'est-à-dire que c'est la question... migratoire, on a maintenant des points de vue qui se sont très largement rapprochés. Hein. On a des enquêtes où on a trois quarts des sympathisants de gauche qui jugent nécessaire d'expulser les délinquants à l'issue de leur peine. Et on a une majorité de sympathisants LR qui nous disent oui, pourquoi pas régulariser au cas par cas des sans-papiers dans des métiers en tension. On voit vraiment que les choses, que les points de vue se sont rapprochés.
Il y a un clivage chez les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, mais pas auprès des
Français. Alors, c'est ça. C'est un des sujets sur lesquels il y a une fracture ou un décalage ou un hiatus entre ce qui se passe dans le champ politique, où cette question du droit du sol, on le voit, suscite de très nombreuses réactions. Droite, extrême droite, on vous l'avait bien dit, il fallait le faire depuis très très longtemps. La gauche, on attaque un principe sacré du pacte républicain. On va citer des célèbres Français, enfants d'étrangers qui ont bénéficié du droit du sol, de Michel Platini, Zinedine Zidane, et on en trouvera d'autres sans doute autour de ce plateau. Et de ce point de vue-là, la majorité va être prise en étau entre... vous n'en faites pas assez, vous en faites trop. Et c'est vrai qu'en fonction de l'appartenance partisane, notamment les sympathisants de droite et de droite extrême, qui sur ces sujets sont en véritable fusion, il n'y a pas la moindre différence sur leur point de vue, ça va être, il faut étendre le droit du sang ou la fin du droit du sol à l'ensemble du territoire français. Le gouvernement réagit très tardivement, je crois même par rapport à ce qu'a dit Christophe Barbier. François Bayrou l'avait proposé lors de sa campagne en 2007. Vous parliez de Christophe Baroin qui était à Beauvau au début de la campagne, jusqu'à la fin.
En 2007, oui. François Bayrou avait proposé
pour Mayotte,
la suppression du droit
du
sol.
Et puis, il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux qui est très intéressante. On voit Jean-Marie Le Pen, c'est une de ses dernières participations à une grande émission médiatique politique, ça devait être sur France 2, qui est opposé au jeune Gérald Darmanin, qui à l'époque était déjà député du Nord, plutôt maire de Tourcoing et député du Nord, il n'y avait pas le cumul des mandats, et également chef de file de la campagne des primaires de Nicolas Sarkozy, qui s'oppose à la fin du droit du sol à Mayotte quand Jean-Marie Le Pen la réclame. Et dans l'imaginaire de l'électorat potentiel et acquis de Marine Le Pen, il ne faut pas oublier qu'un des leviers très forts de vote, c'est ils ont fait les bons constats depuis longtemps. Il l'avait bien dit, le côté cassant. Donc cet événement va avoir, on le voit dans le champ fait politique, un impact très fort et va permettre aux différentes forces de réactiver des imaginaires qui vont être, je dirais, pris en compte par les Français, sachant que le fait majeur quand même, je me répète, c'est le fait que la question migratoire n'est plus l'objet d'un débat si fracturé entre sympathisants de gauche et sympathisants de droite.
Alors, suppression du droit du sol, mise en place d'un rideau de fer autour de l'île, renfort du GIGN. Gérald Darmanin a annoncé une série de mesures pour tenter de rétablir l'ordre dans le département français, dans ce département français d'outre-mer. C'est un sujet de Nicolas Bidart avec Christophe Roquet.
Retenu par les forces de l'ordre, une foule très remontée, venue huer. Le ministre de l'Intérieur à Mayotte. Car ces derniers mois, l'insécurité sur l'île n'a fait que s'aggraver pour ces manifestants.
Le gouvernement doit résoudre le problème d'insécurité et de l'immigration non contrôlée.
Chaque jour qui passe, il y a des Maoris qui meurent, il y a des gens qui meurent ici pour toute cette délinquance, ces violences. Donc on en a marre, on veut des actions concrètes maintenant.
Cette colère, Gérald Darmanin a tenté de l'apaiser en annonçant une mesure forte. La suppression du droit du sol dans l'archipel.
Il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Et nous couperons ainsi littéralement l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel mahorais. Il ne sera donc plus possible de pouvoir venir à Mayotte de façon irrégulière ou régulière, de mettre un enfant au monde ici et d'espérer devenir français de cette façon.
D'année en année, les arrivées de migrants en barque, appelés Kwassa Kwassa, se multiplient sur cet archipel. Situé à 70 km de la première île des Comores, à 300 km de Madagascar et 500 de la côte est de l'Afrique. Aujourd'hui, 48% de la population à Mayotte est étrangère, contre 7,8% pour la moyenne nationale. Depuis un mois, des habitants paralysent l'île avec des barrages pour exprimer leur ras-le-bol. Dans leur viseur, des bandes de jeunes, souvent clandestins, qui terrorisent la population. Sur ces images, certains tentent de s'introduire dans un collège ou de piéger cet automobiliste en lançant une bonbonne de gaz sur sa voiture. Ici, un enseignant a été frappé.
Ils l'ont agressé, ils ont tout simplement saccagé sa voiture. Et là, il perd son sang.
Une situation qui semble insoluble, exacerbée par une grande pauvreté, un accès aux soins dégradé et une pénurie d'eau potable. Lors d'une explosion de violence en avril dernier, le gouvernement avait déjà lancé son opération Wambushu, expulsion des étrangers en situation irrégulière, destruction des bidonvilles et déploiement du RAID, du GIGN et de la CRS 8. Faute de résultats convaincants pour la population mahoraise, Gérald Darmanin a annoncé l'opération Wambushu 2.
Nous mettons en place bientôt un rideau de fer dans l'eau qui empêchera bien sûr le passage des Kwassa Kwassa et des bateaux et des filières d'immigration irrégulière venant notamment d'Afrique des Grands Lacs et qui malheureusement nous donne la situation que nous connaissons. Beaucoup plus de moyens d'interception, des nouveaux radars. Très concrètement, dans les prochains jours, vous y verrez un changement radical.
Mais c'est surtout l'annonce de la suppression du droit du sol à Mayotte qui a fait le plus réagir la classe politique. La gauche s'inquiète quand l'extrême droite salue une mesure qu'elle attendait depuis longtemps.
Monsieur Darmanin reconnaît que le droit du sol est une pompe aspirante énorme pour l'immigration-invasion. Donc il faut le supprimer, il a tout à fait raison, mais il ne faut pas s'arrêter à Mayotte.
Pourquoi ?
Il faut le supprimer dans toute la France. Ben, tout simplement parce que c'est une des raisons majeures qui font que des millions d'Africains rêvent de venir en France pour que leurs enfants soient français.
Le droit du sol est déjà plus dur à Mayotte que dans le reste du territoire français. Et que ça n'a pas produit les effets escomptés.
On trouvera toujours des bonnes raisons pour dire qu'il faut arrêter avec le droit du sol. Et on reviendra sur, j'allais dire, un des grands acquis de notre République depuis qu'elle est née.
Pour supprimer le droit du sol à Mayotte, l'exécutif envisage une révision constitutionnelle. Une longue procédure qui doit être votée par 3/5 des membres du Parlement.
Rachel Bina, ce matin, il y avait Estelle Youssoufa sur RTL qui racontait que dans la maternité de Mayotte, qui est la plus grande d'Europe d'ailleurs, disait-elle, 90% des accouchements étaient le fait de femmes venues d'ailleurs.
Alors, je ne pourrais pas vous confirmer ce chiffre. Ce qui
ça veut dire,
c'est que la majorité...
Allé, je sais, dans cette maternité. Mais il y a de la place pour tout le monde. Comment...
Alors, il y a des ajustements qui sont faits, de l'adaptation, parce qu'il faut bien faire avec le réel. Hein. Et par exemple, je crois, quand, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises, qu'en métropole, dans l'Hexagone, quand on accouche, on reste 3 jours, grosso modo, à la maternité. Là-bas, c'est 24 heures. D'accord. Au bout de 24 heures, on vous sort. Ensuite, le personnel fait vraiment son maximum. Et alors, je les ai vus, hein. C'est de la recherche de lits de manière constante. C'est la difficulté, parce que ce sont des Comoriennes qui ne parlent, il n'y a pas eu de suivi. Donc, beaucoup de césariennes, parce qu'on ne sait même pas comment. Enfin, ça peut paraître des détails, hein, mais c'est le quotidien de ces soignants qui doivent faire avec des gens qui ne parlent pas forcément le français, qui n'ont pas eu de suivi médical, et qui arrivent et qui, en effet, accouchent dans cette maternité, parce qu'il faut bien les prendre en charge.
Et la bonne bourgeoisie mahoraise, pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin, que fait-elle? Elle n'est pas tentée d'aller accoucher en métropole, non?
Alors, quand on a les moyens, on va à La Réunion, par exemple.
Réunion.
Ce qui fait d'ailleurs qu'il peut y avoir des tensions à La Réunion. La Réunion a peur de devenir Mayotte. Bon, elle en est loin également. Mais en effet, il y a toutes ces situations qui sont... Alors, certains élus, et même certains Mahorais, hein, moi, que j'ai rencontrés, dénoncent la complicité d'une partie, bien sûr, pas tout, d'une infime partie, mais qui est agissante, de Mahorais complices, qui embauchent, par exemple, des Comoriens en situation irrégulière, qui leur louent les fameux bidonvilles. On a vu les images. Pour ces cases, vous payez. Ce ne sont pas des cases gratuites. Vous payez, ça peut aller... Bon, j'ai rencontré des Comoriens qui louaient ça 80 ou 100 euros par mois, parce que des compteurs EDF sont ouverts. Hein. Il faut imaginer vraiment tout ce qui se passe. Mais tout ça, alors, tout ça a été un petit peu atténué avec l'opération Wambushu, hein, puisqu'il y a eu des opérations de décasage, on en a pas mal parlé, de destruction de cet habitat indigne, hein, qui a causé aussi la mort de certaines personnes. C'est vraiment insalubre et c'est extrêmement dangereux. Mais c'est tous ces enjeux-là qui se poursuivent ou qui doivent se poursuivre avec Wambushu 2. Et c'est ce qui fait dire aux Mahorais, mais en réalité, il ne faut pas une opération par-ci, par-là. Il nous faut il faut pérenniser ces actions de lutte contre l'immigration illégale et les filières.
Sachant qu'à Mayotte, c'est Gérald Darmanin qui disait ça, il y a plus de forces de l'ordre qu'à Lille, Marseille, Lyon réunis.
Le RAID est pérennisé, le GIGN, la Légion étrangère, il y a grand nombre de forces de l'ordre.
Christophe Barbier, question de Joseph à Paris. Tout cela ne relève-t-il pas uniquement de l'effet d'annonce? Rachel Binas le disait, il y a beaucoup de Comoriens qui ne viennent pas forcément pour avoir des papiers français, mais parce que simplement, à Mayotte, c'est 7 fois plus riche, il y a quand même une maternité. On ne vient pas forcément pour être français, on vient parce qu'on y vit mieux.
Bien sûr, la principale pompe aspirante, c'est la différence de niveau de vie entre Mayotte, qui n'est pourtant pas très riche, et les Comores, qui sont vraiment très pauvres. Et même si à Mayotte, le SMIG est en dessous du SMIG français, même s'il n'y a pas d'AME, je crois, même si le RSA est plus faible, on a quand même des conditions plus favorables que si on est en Afrique ou aux Comores. Donc ça continuera à attirer des gens. Ce n'est pas pour ça qu'il faut ne pas prendre en compte aussi l'effet aspirant, l'effet dément du droit du sol. Et l'abolir, le suspendre, ça peut être quand même une première réponse. Par ailleurs, ça permet de, en considérant que les enfants qui vont naître vont demeurer étrangers, ça permet de les traiter un peu dans la longueur du temps pour éventuellement penser à les ramener dans leur pays d'origine, avec leur mère ou avec leurs deux parents, si les deux parents ont fait le voyage. Donc ça permet une action en aval un peu plus longue pour dire non, vous ne resterez pas, vous êtes né là, certes, mais on ne peut pas vous garder, vous retournez aux Comores.
Il y a le rideau de fer maritime aussi qui interroge, ça veut dire quoi ça?
Oui, rideau de fer maritime, l'image de Gérald Darmanin est audacieuse. On a l'impression qu'on va descendre une sorte
de grille
entre les Comores et Mayotte et puis qu'il faudra avoir la clé pour entrer. Ce n'est pas du tout comme ça. Visiblement, ça sera un dispositif naval plus ou moins dense, plus ou moins armé, avec, dit-on, des drones navals de surveillance, sans doute des bâtiments militaires, policiers ou autres, pour intervenir. Intervenir sur quoi? Sur des embarcations, les fameuses Kwasa-Kwasa, dont Emmanuel Macron s'était moqué un jour, avait fait de l'ironie. Et ça lui était revenu en boomerang. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas couler ces bateaux alors qu'ils sont en train de faire les 70 km entre les Comores et Mayotte. Donc il faut penser à un rideau de fer qui est en fait un système où vous recueillez les gens pour les ramener à leur point de départ. Oui, mais il faut avoir l'autorisation de
Comores
et du régime politique. Il faut avoir passé un accord de restitution. Ce qui a été fait, mais ce qui, pour l'instant, n'est pas complètement efficace. Et on voit bien aussi que du côté du gouvernement comorien, il y a une certaine complaisance à laisser partir pour essayer d'obtenir plus d'argent de la France en échange d'une pseudo-fermeté sur les partants. C'est quand même très flou.
Oui, alors je dirais pas que, parce qu'il faut aussi battre en brèche certains mythes, le gouvernement comorien, enfin, rien ne laisse indiquer, et encore une fois, je suis allée aux Comores, je suis allée à Mayotte, j'ai rencontré beaucoup de gens, que, parce que c'est pas vous qui qu'ils disent, mais certains le disent, que le gouvernement comorien paierait des Comoriens pour envahir Mayotte.
Ils ont 46% de la population. Maintenant, les étrangers représentent la moitié de la population. Hein,
à Mayotte, oui, c'est ça. Un adulte sur deux. Ils n'ont pas besoin de ça, le niveau de vie étant très faible. Mais en effet, un accord a été passé. Maintenant, la difficulté, c'est que le gouvernement comorien lui-même ne reconnaît pas la souveraineté de la France sur Mayotte. Il dit aux Comoriens, quand vous êtes à Mayotte, vous êtes chez vous.
Vous êtes chez vous. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est que les Comores, en plus, revendiquent le territoire de Mayotte en disant « c'est pas français, c'est à nous ». Frédéric Dabi, donc, l'une des réponses Christophe Barbier le disait, c'est quand même un des éléments, c'est de supprimer le droit du sol, ce qui peut permettre de renvoyer aux Comores certains illégaux. Est-ce que les Français sont attachés au droit du sol? Vous nous disiez tout à l'heure, c'est ce qui a permis à Zinedine Zidane et Michel Platini de concourir avec le maillot de l'équipe de France.
Oui, bah, ça a toujours été dans un imaginaire républicain, un pan essentiel de notre modèle d'intégration qui a du plomb dans l'aile et ça s'est, si je puis dire, diffusé à beaucoup de Français, pas seulement de Français de droite extrême. Par le passé, il n'y avait que Jean-Marie Le Pen qui était sur la suppression du droit du sol. Charles Pasqua avait fait un pas lorsqu'il parlait pendant la campagne, je crois, de 88 ou même dans la deuxième cohabitation avec François Mitterrand, d'une prestation de serment pour les personnes nées en France, nées de parents étrangers. J'ai retrouvé une enquête d'août 2016. D'août 2016, c'est pour Valeurs Actuelles, c'est un moment particulier, c'est la primaire de droite, certains s'en souviennent, et il y a une logique de surenchère entre tous les candidats pour être très dur sur les questions migratoires, y compris le candidat Alain Juppé, qu'on avait caricaturé à l'identité heureuse, son programme était également très musclé. Et on demandait aux Français s'ils étaient favorables à la suppression de l'acquisition automatique de la nationalité pour les enfants nés de parents étrangers ou devenus ou arrivés entre 11 et 18 ans. On avait 59% de Français qui étaient favorables et on parlait donc la fin du droit du sol, 59% qui se montraient favorables, avec bien sûr des sympathisants FN de l'époque et de droite qui étaient vraiment qui étaient très homogènes, alors qu'à gauche il y avait une sorte de fracturation. Presque un sympathisant de gauche sur deux y était favorable. Déjà, hein, la poutre, si je puis dire, travaillait à la suppression. 46%, alors c'est une minorité, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Et il y avait une sorte de division entre la gauche socialiste qui était plutôt favorable à une majorité et la gauche, à l'époque, c'était la gauche plus radicale, le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui était sur un rejet total. Là, ce qui est intéressant dans les premières prises de parole, c'est quand on entend Boris Vallaud du Parti Socialiste ou Manuel Bompard de la France Insoumise, ils sont plutôt sur le même discours. Un, ce n'est pas la bonne solution, ça ne réglera pas le problème et surtout, on apporte moins de République en remettant en cause ce droit fondamental.
Nathalie Moret, question téléspectateur. Marine Le Pen a-t-elle déjà mis les pieds à Mayotte et y est-elle populaire ?
Absolument. Marine Le Pen s'est déjà rendue à Mayotte, notamment lors de la dernière élection présidentielle. Elle avait eu un accueil absolument dithyrambique et elle a des résultats politiques extrêmement forts sur Mayotte. De mémoire, je crois que je l'ai noté, elle a 45% au premier tour de l'élection présidentielle et au second tour, elle a fait 60%. Donc on voit bien que vraiment, c'est pour elle, c'est un territoire qui est très important. En règle générale, les Outre-mer, mais vraiment Mayotte, c'est un territoire qu'elle a toujours beaucoup traité. Et c'est d'ailleurs pas vraiment un hasard si Gérald Darmanin, à moins de 4 mois des élections européennes, où la majorité est quand même très en danger par rapport au Rassemblement national, c'est pas un hasard donc si Gérald Darmanin fait l'aller-retour en moins de 24 heures. Il est toute la majorité essaye d'installer le débat entre le Rassemblement national et la majorité dans l'optique des élections européennes. Et une façon d'aller là-bas et de dire le droit du sol, c'est terminé, c'est d'imposer une autorité et de dire, regardez, contrairement à ce que vous dites, nous, on fait les choses et on apporte des solutions.
Alors, Christophe Barbier, pour supprimer le droit du sol, ça passe par la Constitution. Donc, pour changer la Constitution, c'est très compliqué. Il faut... 60% des parlementaires.
Il faut 3/5, un peu plus, ouais, des parlementaires, après avoir, par l'article 89, fait voter un texte en termes identiques par l'Assemblée et par le Sénat. Assemblée et Sénat qui sont de couleurs politiques différentes en ce moment. Ou bien vous passez par le référendum. Depuis sa première élection, Emmanuel Macron n'a pas réussi à changer la Constitution sur aucun des thèmes qu'il voulait mettre en avant. Mais il y a aujourd'hui plusieurs textes qui sont dans les tuyaux. Le texte sur l'IVG qui va être inscrit dans la Constitution, on voit mal rattacher le droit du sol à ce texte-là. En revanche, sur la Nouvelle-Calédonie et sur la Corse, il y a des discussions pour mettre dans la Constitution des évolutions de statut, notamment la fameuse autonomie pour la Corse. On pourrait très bien y adjoindre un article sur Mayotte. Il y a déjà plusieurs articles de la Constitution complètement destinés, dévolus au cas des Outre-mer. Donc ça serait tout à fait possible. Mais on voit tout de suite que le débat politique s'enflamme. Puisqu'il y a ceux qui disent « toucher au droit du sol, même uniquement à Mayotte, c'est renverser un principe républicain ».
Est-ce que c'est vrai? Alors on dit que ça remonte au 19e siècle et que c'est un fondement de la République. Non, ça date de quand? Parce que le ministère de l'Intérieur donne une autre version du droit du sol. Il dit que c'était pour fournir des militaires... À Napoléon III.
Il y a toutes les versions. D'abord, si on remonte aux origines, le droit du sol, c'était quoi? C'est que vous étiez né sur un sol, donc vous y apparteniez. Et vous apparteniez à qui? Au seigneur. Vous étiez un serf lié au sol. C'était ça, votre droit du sol. Donc vous voyez, ce n'était pas non plus quelque chose de glorieux. On a ensuite adopté le droit du sang, c'est-à-dire c'est la nationalité de vos parents qui donnait la vôtre. Et Napoléon a porté cela. Et Napoléon III a repris ce droit du sang avec la volonté double de faire venir des étrangers qui feraient des enfants, ça fournirait de futurs soldats, mais aussi une future main d'œuvre pour un décollage industriel. Le droit du sol, pardon. Oui, oui. Le droit du sol permettait cela. Quand il revient au droit du sol, c'est pour une raison militaire et économique et sociale.
Que les immigrés italiens puissent entrer dans l'armée française.
C'est ce qui va fonctionner avec le Second Empire et avec la Troisième République, puisque je vous rappelle que le dernier poilu à être mort il y a quelques années, Lazare Ponticelli, était italien.
Ouais, voilà.
Donc vous voyez, la République...
Et en Italie, donc droit du sol.
Et... pourquoi on a fait cela? Parce qu'on a constaté aussi que la démographie française, pourtant à l'époque très dynamique, pouvait s'épuiser ou être insuffisante à fournir des générations suivantes. Aujourd'hui, vous adoptez le droit du sang stricto sensu dans notre pays. Donc vous n'êtes français que si vos deux parents sont français. Comment on sait que les couples franco-français font moins d'enfants? On est à 1,8, je crois, maintenant. Ça va descendre encore. Bah, votre population de Français, elle s'amoindrit. Si ça tombait à un enfant par couple, vous passez de 70 millions de Français à 35 millions en une génération. C'est arithmétique. Donc ça veut dire que vous allez être dans un pays où il y aura de moins en moins de citoyens ayant la nationalité française, entourés, parce qu'il faudra bien faire tourner les usines et les commerces, entourés par de plus en plus d'étrangers qui resteront étrangers, sauf à avoir des campagnes de naturalisation massive, et dont les enfants resteront étrangers. Donc si vous avez des immigrés qui ont, eux, 2 ou 3 enfants par couple, eh bien, en quelques années, vous allez transformer le pays en un noyau dur de Français entouré d'étrangers dans leur propre pays. Ça ne semble ni raisonnable, ni praticable.
Rachel Binas, on voit l'impasse dans laquelle se retrouve Mayotte aujourd'hui, parce que Mayotte, c'est la France à côté des Comores, où c'est la misère, avec un PIB 7 fois inférieur. Est-ce que à Mayotte ou en métropole, certains se posent la question de l'indépendance de Mayotte en disant, au fond... c'est compliqué d'avoir un bout de France à 10 000 km de la métropole et CQFD avec la situation des Mahorais aujourd'hui.
Alors,
ils sont français depuis 1841, depuis bien avant Nice.
1974, ensuite le référendum. Alors, on a fait un référendum séparé. C'est un peu ce péché originel que l'on paye aujourd'hui. Et ce qui fait que l'ONU, d'ailleurs, déjà en 1974, ne reconnaît pas la souveraineté de la France en expliquant qu'il fallait prendre l'ensemble de l'archipel et pas segmenter.
Parce qu'en 1974, les Comores sont devenues indépendantes, mais pas Mayotte.
Les Comores ont voulu, été appelées à se prononcer. Largement, elles se prononcent en faveur de leur indépendance. Elles veulent rester comoriennes. Mayotte, à plusieurs reprises, a été consultée. L'île a été consultée et veut être française. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, on est entraîné dans un processus en fait de collectivité territoriale dès les années 2000. Là-dessus, il y a une espèce d'homogénéité, c'est-à-dire que la gauche plurielle, c'était Jospin, Chirac. Tout le monde est d'accord, tout le monde signe, sauf un parti qui est constant dans la ligne, c'est le Parti communiste. Le Parti communiste, lui, appelle à décoloniser.
Ah, il considère que c'est un vestige de l'Empire colonial.
Exactement, et qu'il faut décoloniser et donner son indépendance. S'en suivra ensuite le processus de départementalisation, qui a renforcé aussi un petit peu l'écart social, économique, qui peut être aujourd'hui celui entre les Comores et Mayotte. Et là-dessus, seul le PC, si vous voulez, faisait un peu cavalier seul, et lui était contre en m'expliquant que tout ça allait être extrêmement compliqué. Et puis il y a une phrase, un propos de Michèle Alliot-Marie que je voudrais vous citer, c'est très court. En 2009, on est à l'Assemblée nationale, elle est alors ministre de l'Intérieur, et elle dit, on est au moment de cette départementalisation qui se joue là, passer, je la cite, passer à un système de prestations ou de salaires équivalent à celui de la France serait irresponsable. Tout le système économique et social éclaterait, sans parler de l'immigration qui s'en suivrait. Ce sont vraiment des propos qui apparaissent prophétiques aujourd'hui. Tout ça pour expliquer
que la départementalisation a introduit les standards franco du
pas
métropole.
Encore. Alors on n'est pas encore, on n'a pas une convergence totale, mais en effet, là, c'est dans cette direction-là qu'il fallait aller. Comme ça a été rappelé, le SMIC, un certain nombre de prestations ne sont pas encore équivalentes, mais l'objectif, c'est d'arriver en effet à un équilibre et lisser justement ces prestations-là. Ce qui rend encore une fois les enjeux extrêmement compliqués, puisqu'à côté, les Comores, il n'y a pas d'effort particulier pour développer sa part le pays.
Alors, évidemment, l'annonce du ministre de l'Intérieur de supprimer le droit du sol à Mayotte plaît beaucoup à l'extrême droite. Jordan Bardella voudrait même l'étendre, on l'a dit, à l'ensemble du territoire français. Depuis plusieurs mois, le RN surfe sur le sujet de l'immigration et ne cesse de monter dans les sondages. Sujet d'Aubry Perrault avec Michel Bouilly.
Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour, et merci de votre invitation.
Gérald Darmanin, sourire aux lèvres, c'est un réveil comme les aime le président du Rassemblement national. Jordan Bardella vient se réjouir à la radio de la suppression du droit du sol à Mayotte et appelle même à aller plus loin.
C'est un bon début puisque ça fait maintenant 20 ans que nous réclamons la suppression du droit du sol pour l'intégralité du pays, du sol français. On progresse.
Parler d'immigration, son thème favori. Du pain béni pour le poulain de Marine Le Pen. L'année dernière, il s'était justement rendu sur l'île.
Mayotte, c'est la France.
Jordan Bardella fait un passage éclair d'une matinée, partagé dans ce clip tourné par son équipe de communication. Au programme, visite du centre de rétention administrative puis du commissariat.
Ils n'ont pas suffisamment de moyens. Et le problème, c'est que ce qu'il y a en trop aujourd'hui, ce sont des immigrés clandestins qui viennent en France, tout cela au détriment des Mahorais.
À l'extrême droite, il n'est pas le seul à se mettre en scène au milieu des théâtres de la crise migratoire. En septembre déjà, Marion Maréchal, soutien d'Éric Zemmour, se rend sur l'île italienne de Lampedusa, après un afflux inédit de migrants.
Il faut bien comprendre que les frontières italiennes ne sont pas seulement les frontières de l'Italie, elles sont les frontières de l'Europe entière. Nous savons qu'une grande partie des gens que nous voyons aujourd'hui seront probablement dans une semaine et dans un mois en France. Et donc je souhaite être ici pour appeler à un changement de politique.
Et le thème va continuer de faire l'actualité. Avec la loi immigration qui se transforme en feuilleton politique en décembre dernier. Le matin même du vote pour le président du RN, le texte ne va pas assez loin.
Dans ce texte, il y a énormément d'angles morts. Je suis désolé, il n'y a rien sur le droit du sol, sur l'acquisition quasi automatique de la nationalité. Il n'y a rien sur les mineurs étrangers et il n'y a rien sur la maîtrise de nos frontières.
Quelques heures plus tard, pourtant, les députés du RN votent le texte et se prestent au micro pour répéter le mot d'ordre du jour.
On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national.
Et la victoire idéologique de ce texte, elle est évidemment pour le camp de ma famille politique.
Je crois que c'est une victoire idéologique. Nous avons réussi, c'est vrai, avec Marine Le Pen, à imposer des sujets.
Notre assemblée... Le RN a-t-il gagné idéologiquement? Le patron des Républicains revendique lui aussi sa victoire.
Nous nous battons pour cela depuis des mois, je dirais même depuis des années.
Dans le camp de la majorité, certains sortent du bois pour s'opposer à ce virage engagé par la majorité. Les députés Sacha Houlier, Gilles Legendre ou le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui remet même sa démission en désaccord avec la réforme de l'aide médicale d'État.
Aucun doute sur ma décision. Si le texte est voté, je pars.
Une droitisation extrême du débat qui provoque des passes d'armes dans l'hémicycle.
En 2017 et en 2022, nous avons uni nos voix contre le Rassemblement national pour faire élire Emmanuel Macron. Ce temps est désormais révolu, puisque le gouvernement en est désormais le porte-voix.
Vous êtes tombé dans le piège du Rassemblement national qui crie victoire. Dans ce texte, le RN n'a pas ajouté une virgule et pas un mot. Au Sénat, il vote contre le texte.
Dans l'opinion, le ton se durcit. 7 Français sur 10 se disent satisfaits que la loi ait été votée. Mais fin janvier, le Conseil constitutionnel retoque finalement 35 articles parmi lesquels le rétablissement du délit de séjour irrégulier, la fin du droit du sol automatique pour les enfants nés de parents étrangers ou la suppression du droit à l'hébergement d'urgence pour les étrangers en situation irrégulière.
Il y a un certain nombre de sujets où on ne peut pas, à partir de positions politiques, mettre en cause des principes fondamentaux. Alors, moi je suis sûr qu'on basculera très vite de l'état de droit à un régime populiste.
Réforme après réforme, le RN tente de normaliser ses idées. Selon un sondage IFOP pour Valeurs Actuelles, Marine Le Pen serait au coude à coude avec Édouard Philippe en cas de duel au deuxième tour de la présidentielle et battrait même le Premier ministre, Gabriel Attal.
Alors Nathalie Moret, question téléspectateur, c'est Henri en Gironde. L'extrême droite a-t-elle une nouvelle fois gagné avec la remise en question du droit du sol? Le journal Le Monde parle d'une victoire idéologique sans effort pour le Rassemblement national.
Jordan Bardella, ce matin, sur France Info, ne dit pas autre chose. Quand il dit qu'effectivement, il est ravi de voir la majorité arriver sur les positions du Rassemblement national, c'est bien qu'il y a eu une victoire idéologique. Mais ça va même plus loin que ça. Je vous donne un exemple qui, ces derniers jours, j'ai trouvé frappant. Au début du second quinquennat, Elisabeth Borne, quand elle était première ministre, disait qu'elle voulait gouverner avec l'arc républicain, dont elle excluait le Rassemblement national et la France insoumise. La semaine dernière, Gabriel Attal, qui lui a succédé à Matignon, a dit que pour lui, l'arc républicain, c'était l'hémicycle dans son entier. C'est-à-dire qu'il considère que la France insoumise et le Rassemblement national, contrairement à Elisabeth Borne, sont des partis qui sont dans l'arc républicain. On voit bien que les choses ont bougé entre le début du quinquennat, c'est-à-dire il n'y a même pas 2 ans, et aujourd'hui. On voit bien qu'il y a eu un bouger de la majorité qui, effectivement, aujourd'hui, vote des lois qui, sans doute, n'auraient pas été votées en 2017. Cela ne va pas, d'ailleurs, sans créer des remous au sein de la majorité. Mais on voit bien qu'effectivement, Jordan Bardella, il est reçu par le président de la République à l'occasion des rencontres de Saint-Denis. Il fait même savoir qu'il l'a trouvé intelligent et brillant. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de normalisation, plus que ça, presque un effacement des différences entre le Rassemblement national et les autres partis. Ce dont je peux témoigner, en tout cas, c'est sur le terrain, notamment dans les départements où mes journaux sont diffusés. Les élus du Rassemblement national, qui étaient complètement ostracisés il y a quelques années, quand ils étaient simplement élus locaux, aujourd'hui sont des gens qui sont accueillis, salués, remerciés. Ils ont leurs photos dans le journal, leurs photos partout. Et ce sont des gens qui sont considérés comme des élus comme tout le monde. Donc oui, aujourd'hui, l'arc républicain comprend, si on prend ces critères-là, le Rassemblement national.
Frédéric David, c'est vrai qu'on a souvent parlé d'un plafond de verre, notamment au sein de l'électorat français vis-à-vis du Rassemblement national. Est-ce que maintenant, Marine Le Pen, elle arrive à percer dans des franges de l'électorat où, jusqu'à présent, elle avait des difficultés?
Oui, clairement oui. Et je ne vais pas rester sur le second tour qui n'a pas beaucoup d'intérêt à 3 ans du vote sans connaître les résultats du premier tour. Vous citiez l'enquête de tout à l'heure. Ce qui m'a frappé, c'est les 36%. Atteint au premier tour à une élection présidentielle. C'est proche du score de François Mitterrand de 1988, président sortant. Et c'est vrai qu'on est frappé de voir à quel point Marine Le Pen est sortie du jean-marisme électoral. Qu'est-ce que c'était que le jean-marisme? C'était d'une structure électorale extrêmement typée, extrêmement fracturée, avec des surperformances du FN de l'époque dans un électorat masculin, jeune, ouvrier, ou issus des catégories populaires ou chômeurs. C'est complètement fini dans l'enquête pour Valeurs Actuelles. Ce qui est particulièrement frappant, c'est l'absence notamment de différences générationnelles. Marine Le Pen obtiendrait 31% chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Les personnes âgées, les retraités, c'était une terre inconnue, si je puis dire, pour le Rassemblement national, quelle que soit l'élection. Et en dehors des cadres supérieurs et des professions libérales, où là, le score reste faible, autour de 15%, même si aux élections européennes, autre enquête IFOP fiduciale diffusée hier soir, Jordan Bardella obtient, la liste Bardella obtient presque 18 ou 20% dans ces catégories-là. Donc il y a un vrai élargissement du socle du RN vers la France du travail, la France des catégories générationnelles intermédiaires. Et puis aussi, par rapport à ce qu'a dit Nathalie, il y a aussi un changement de logiciel de l'électorat RN, notamment sur la question de l'immigration. Qu'est-ce qui se passait il y a quelques années? C'était l'immigration était la première motivation du vote FNRN à toutes les élections. Et donc, parce que ce parti était très isolé sur ses propositions sur l'immigration, la préférence nationale, la fin du droit du sol, c'était également un repoussoir pour les autres partis. Que s'est-il passé à l'élection présidentielle au premier tour? Et c'était la première fois que cela arrivait. Quelles étaient les motivations du vote? Alors, c'était du déclaratif, bien sûr, de l'électeur Marine Le Pen. C'était, un, le pouvoir d'achat. Deux, la lutte contre l'insécurité. Et à un point près, mais c'est symbolique, la lutte contre l'immigration clandestine. En revanche, chez Éric Zemmour, dans l'électorat érinien, c'était l'immigration. Et on voit très bien, peut-être que la victoire dont vous parlez, que vous voyez sur le terrain, est là, puisque maintenant, d'autres partis ont repris ou se sont appropriés des thématiques fortes, un durcissement sur la question migratoire. Ce n'est plus un élément distinctif de l'offre RN et donc du vote RN de se déterminer uniquement sur la question de l'immigration, même si on connaît l'axiome, on préfère l'original à la copie, et Marine Le Pen n'a pas besoin d'en rajouter, si je puis dire, sur cette question-là.
Voilà, on voit d'ailleurs Éric Ciotti courir derrière les propositions du Rassemblement national. Hein. Partout sur le territoire national, nous devons supprimer le droit du sol. Rachel Binas, à l'instant, Frédéric Dabi disait, on préfère l'original à la copie. Et c'est vrai que sur ce thème de l'immigration, 60%, donc Marine Le Pen en tête à Mayotte, il y a ce sondage quand même qui frappe. 82% des Français estiment que l'immigration est un sujet dont on ne peut pas parler sereinement en France. Eh ben, du coup, on s'exprime avec le bulletin de vote où il y a écrit « Immigration est un sujet qui me préoccupe ».
Il est certain qu'une fracture existe entre, alors je ne vais pas employer le terme d'élite parce qu'il est un petit peu connoté, mais on va dire entre un milieu médiatique, intellectuel, universitaire, politique, qui a du mal à approcher ce sujet-là, pour qui c'est tabou, et un certain nombre de Français sur qui la charge de l'accueil repose. Quand vous allez en reportage sur le terrain, à Calais ou ailleurs en France, les Français vous parlent extrêmement librement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont racistes, hein, que l'on soit clair. Mais ce sont des sujets qui ne sont pas frappés du sceau du tabou pour eux. Ils parlent de leurs difficultés sociales, des difficultés, parfois des préjugés qu'ils peuvent avoir, qui peuvent être vrais ou faux. Mais il y a une parole qui est extrêmement libre et que l'on ne retrouve pas forcément, alors même si petit à petit le réel nous rattrape, mais que l'on ne retrouve pas dans tous les milieux, notamment les milieux qui sont plutôt privilégiés et qui peuvent échapper justement aux conséquences qui sont parfois difficiles, qui peuvent être complexe pour un certain nombre de Français. Mais c'est certain que plus vous avancez et plus vous voyez que cette parole a besoin de sortir, de s'épancher, et qu'elle se retrouve, du moins en tout cas quand on n'y prête pas assez attention, elle se cristallise à travers notamment le vote RN, même si en effet, comme on l'a dit, la problématique de l'immigration n'est pas la seule qui pousse à mettre ce bulletin dans l'urne. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut entendre.
Christophe Barbier, sur cette impression que les politiques ont beaucoup de mal à traiter la question migratoire ou sont impuissants à y répondre. Et j'ajouterais, si le Conseil constitutionnel venait à censurer l'idée de supprimer le droit du sol à Mayotte au nom, parce que ça créerait une rupture d'égalité vis-à-vis du reste des territoires, est-ce que ça rajouterait ce sentiment d'impuissance du décidément, ceux qui nous gouvernent n'arrivent pas à traiter cette question importante aux yeux des Français?
Alors le Conseil constitutionnel, dans la dernière mouture de la loi immigration, a déjà censuré des dispositifs qui concernaient Mayotte, à la grande surprise et au grand effroi de la droite qui les avait fait ajouter, qui a expliqué qu'il fallait reprendre le pouvoir politique et que le Conseil constitutionnel était fautif ou s'appuyait sur des textes, notamment des textes européens, qui le mettaient en état de ne pas respecter la volonté nationale. Donc ce débat, il est ouvert. Néanmoins, quand on regarde la jurisprudence plus ancienne, le Conseil constitutionnel, à plusieurs reprises, a dit que ce droit du sol pouvait faire l'objet d'exceptions liées à des situations territoriales très particulières. On est exactement dans ce cas-là. Donc si c'est bien troussé juridiquement, il n'y a aucune raison que le Conseil constitutionnel invalide. Mais le débat politique va être compliqué. Parce que certains vont dire on ne vote que si c'est pour toute la France. Alors là, on est sûr que ça enflamme le débat. Certains vont dire, non, pas toute la France. Il y a Mayotte, mais il y a la Guyane aussi. La Guyane, la grande frontière avec le Brésil, l'Amazonie, faisons cela aussi. D'autres vont dire, mais au fait, En Nouvelle-Calédonie, on a fait un corps électoral réduit pour les référendums, où il fallait avoir des conditions de résidence sur place pour pouvoir voter très anciennes, donc au détriment des Français qui venaient d'arriver. Pourquoi on ne ferait pas cela dans d'autres endroits? Et donc, vous voyez, ça risque très très vite de devenir une espèce de mosaïque de droits. Donc le ministre de l'Intérieur a intérêt à agir vite, avec le garde des Sceaux, pour avoir un texte précis et très circonstancié à Mayotte, avec peut-être une clause de revoyure. Pour dire, ben voilà, si dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, on a réussi à endiguer ce problème à Mayotte, on remettra le droit du sol tel qu'il est sur tout le territoire de la République.
Alors, cette crispation sur le thème de l'immigration concerne également nos voisins. Au Royaume-Uni, le gouvernement voudrait envoyer les migrants clandestins par avion au Rwanda, une mesure très controversée que Rishi Sunak a du mal à mettre en place. C'est un sujet de Mathieu Lignot avec Benoît Thébault.
Une nuit d'été en 2022 et un avion cloué au sol. À son bord, des migrants que le gouvernement voulait expulser au Rwanda. Une décision de justice empêche l'appareil de décoller. Mais depuis 2 ans, cette idée d'envoyer des migrants en Afrique ne cesse d'être défendue par les premiers ministres conservateurs successifs, y compris à la télévision la semaine dernière.
Je vous parie 1 000 livres et on les donnera à une œuvre de charité pour les réfugiés que vous ne mettrez personne dans ces avions avant les élections.
Je veux vraiment mettre ces gens dans des avions. Bien sûr que je veux les mettre dans un avion.
1 000 livres.
Je vais les mettre dans un avion. Je travaille d'arrache-pied pour le faire.
Concrètement, l'objectif visé est d'endiguer les arrivées sur les côtes anglaises. Pour ce faire, Rishi Sunak veut interpeller les migrants, puis les envoyer directement au Rwanda. Ils pourront y faire leur demande d'asile, peu importe leur pays d'origine. Alors ce pari du Premier ministre choque ses adversaires.
Le public est habitué à ce que les conservateurs parient sur la vie des autres. Le Premier ministre a accepté cette semaine un pari grossier sur la vie des demandeurs d'asile. Ce faisant, il les a rabaissés en tant qu'individus et il a sali le poste qu'il occupe actuellement. Puis-je lui demander de présenter des excuses?
Je crois que nous avons un désaccord majeur sur ce point. Nous pensons que si quelqu'un vient dans ce pays illégalement, il ne devrait pas pouvoir rester. Il devrait être expulsé. C'est pourquoi nous ferons ce plan.
Ce plan a été lancé par Boris Johnson il y a 2 ans.
Toute personne entrant illégalement au Royaume-Uni, ainsi que celles qui sont arrivées illégalement depuis le 1er janvier, peuvent désormais être relocalisées au Rwanda.
Relocalisation de migrants pour les conservateurs, déportation pour ses détracteurs. La Cour suprême britannique a jugé illégal le premier accord entre la Grande-Bretagne et le Rwanda en novembre dernier. Qu'à cela ne tienne, pour les deux pays, leur ministre en signe un nouveau, 3 semaines plus tard.
Votre pays s'est engagé clairement et sans ambiguïté à assurer la sécurité des personnes qui viennent ici.
Je tiens à réaffirmer que les personnes relocalisées au Rwanda seront les bienvenues et qu'elles bénéficieront à la fois de la sécurité et du soutien dont elles ont besoin pour se construire une nouvelle vie. Le Rwanda se réjouit à l'idée de renforcer encore la coopération entre le Royaume-Uni et de mettre en œuvre ce traité.
En échange, le Rwanda obtient de l'argent. Officiellement, 165 millions d'euros en plus de la prise en charge des migrants, payés en intégralité par la Grande-Bretagne. Fait rarissime, le roi Charles, qui ne doit pas se mêler de politique intérieure, fait savoir sa consternation. Il y a 15 jours, l'archevêque de Canterbury, le chef de l'Église, vient même faire la leçon aux parlementaires. Ils examinent une nouvelle version du texte.
C'est préjudiciable au respect des principes constitutionnels et de l'état de droit. Et surtout, mesdames et messieurs, ce plan nuit à l'unité de notre nation. À une époque où les plus grandes questions de guerre, de paix, de défense et de sécurité exigent que nous soyons unis.
Ce matin, une commission parlementaire juge la loi incompatible avec les valeurs humaines du Royaume-Uni. Un rebondissement politique qui fragilise un peu plus Rishi Sunak. Le Premier ministre risque de perdre les prochaines élections et ses 1 000 livres sterling, pariées la semaine dernière.
Christophe Barbier, ce qui interroge souvent, c'est que Rishi Sunak, comme sa, ministre, son ancienne ministre des, de l'Intérieur, qui était très voulant, elle avait dit, rêver de charters renvoyant les migrants, et sont tous deux issus de l'immigration. C'est, ça ne manque pas de sel de voir des familles issues de l'immigration être très dures pour fermer les frontières et empêcher d'autres parcours comme les leurs, quoi, finalement.
Oui, avec deux arguments, pas toujours dans la haute société à laquelle appartient Rishi Sunak, mais qu'on trouve dans la société populaire. Le premier argument, c'est de dire, ben, nous ou nos parents, on a respecté les règles, pourquoi faudrait-il accepter des gens qui, eux, sont arrivés de manière illégale? Puis le deuxième argument, c'est un argument économique. La main-d'œuvre qui arrive par l'immigration illégale, et même par une partie de l'immigration légale, elle est bon marché. Elle va tirer les salaires vers le bas. Elle va faire une concurrence déloyale aux immigrés passés avant ou aux immigrés de seconde génération qui, eux, se battent pour que les salaires minimums soient plus élevés. On a une illustration politique très claire de cela en mars 2012, quand Jean-Luc Mélenchon fait son grand discours à Marseille sur la plage, où il fait l'éloge de l'immigration et où il tend les bras au peuple du sud de la Méditerranée, dans une grande générosité migratoire. Qu'est-ce qui se passe? Une partie de l'électorat populaire, dont une partie est issue de l'immigration, le quitte. Et alors qu'il était à touche-touche avec Marine Le Pen, il dégringole, il va finir à 11. Et donc, ça dit bien le sentiment de ces classes populaires qui est de dire quoi? Mais non, on ne veut pas qu'arrive une nouvelle vague de migrants qui vont être nos concurrents sur les logements sociaux, être nos concurrents pour les emplois, et nous empêcher de prendre l'ascenseur social, ou du moins ce qu'on croit être l'ascenseur social. Donc c'est un phénomène assez, assez courant.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.